Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre. Ce soir, européenne, le match retour. Il ne devrait pas être nécessaire de mobiliser des arguments pour faire passer l'idée que les élections européennes sont importantes. Le Parlement est une des principales institutions de l'Europe, la seule à procéder du suffrage universel direct. Son renouvellement tous les 5 ans est donc un rendez-vous démocratique majeur. Pourtant, ce scrutin se caractérise par un fort taux d'abstention, 57,46% en moyenne en 2014, soit à quelques dixièmes près le niveau atteint en France. Alors verra-t-on en mai 2019, un retournement de tendance, eh bien c'est possible étant donné la configuration politique particulière dans laquelle ce scrutin s'inscrit. Les prochaines élections européennes seront ainsi les premières depuis le Brexit. Or, non seulement le départ du Royaume-Uni et de ses élus va avoir un impact sur les équilibres parlementaires, mais aussi sur le fond du débat. Quitter l'Europe ne peut plus être considéré comme une lubie, il y a un précédent. Le camp des eurosceptiques en est légitimé. En France, ce sera aussi un tournant. Première consultation de l'ensemble des électeurs depuis les présidentielles et les législatives. Un test important donc pour Emmanuel Macron et sa majorité qui ont fait de l'Europe le cœur de leur projet. L'idée est de reproduire à une autre échelle la victoire de 2017. Mais pour l'opposition, ce sera aussi l'occasion de prendre sa revanche. Alors européenne, le match retour. C'est la question du soir en compagnie de trois invités. Mathieu Petithomme, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes maître de conférence en sciences politiques à l'université Bourgogne-Franche-Comté, spécialiste de politique comparée. On vous doit notamment, c'était chez l'Armatan en 2015, je le cite parce que c'est en lien direct avec notre sujet ce soir, « Dépolitiser l'Europe, comment les partis dominants évitent le conflit sur l'intégration européenne ». Pour discuter avec vous, Clémentine Forissier, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste, rédactrice en chef de Contexte, le journal des politiques françaises et européennes. Politique publique, précisément, je crois.
Politique publique.
Et puis notre troisième invité, il est en duplex de France Bleu Hérault à Montpellier. Il s'agit d'Emmanuel Rengouat. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes politologue, maître de conférence à l'Université de Montpellier. Vos recherches portent notamment sur les élections européennes. Ça tombe bien pour l'émission de ce soir. Alors, les élections européennes, c'est donc en mai 2019. Là, l'idée, c'est vraiment de dresser un petit peu un tableau de l'état des forces en présence. Mais on ne peut pas commencer cette émission sans évoquer l'actualité européenne et cet imbroglio autour de ce navire humanitaire, l'Aquarius, qui est toujours bloqué en Méditerranée, qui fait route vers l'Espagne actuellement avec plus de 600 migrants à son bord. Est-ce qu'on est, pour vous, face à un dysfonctionnement de la politique européenne ? C'est-à-dire, est-ce que ce sont des règles qui sont aujourd'hui bafouées par les États, des règles qui ne sont pas assez claires ? Et est-ce que le Parlement européen a son mot à dire sur le sujet, Clémentine Forissier ?
Dans le cas de l'Aquarius, en fait, ce qui se passe, c'est la concrétisation d'une promesse de campagne de Matteo Salvini, qui a dit qu'il ne voulait plus de la politique d'immigration telle qu'elle était appliquée par les Européens, ou pas appliquée, parce que, en fait, tout le problème est que une certaine partie des Européens, et notamment de l'Est, ont refusé la relocalisation des réfugiés. La France, d'ailleurs, a eu un discours un peu alambiqué, pas forcément toujours très clair sur ce dossier ces dernières années. Et en fait, ce qui se passe là, c'est qu'il a dit stop, moi je ne veux plus que les Italiens soient tout seuls pour gérer ce dossier, et donc je refuse d'accepter que ce bateau accoste. Et en fait, ça montre le problème criant, qui est encore très récent d'ailleurs, et qui est en discussion en ce moment à Bruxelles, sur la question de la solidarité entre Européens sur la question des migrations. Aujourd'hui, on a fait pas mal de progrès sur tout ce qui est renforcement des frontières extérieures, comment est-ce qu'on contrôle justement l'arrivée de ces migrants. Mais par contre, pour ce qui est de, une fois sur place, comment on gère les demandes d'asile et comment on gère après ceux qui doivent aller dans tel ou tel pays, là, pour le coup, il y a un vrai problème qui se pose, et il y a une vraie opposition entre un certain nombre de pays sur ce dossier. Et c'est ce qui se matérialise là.
Et cette solidarité, Emmanuel Rengouat, le Parlement européen n'a pas moyen de la rendre plus active ? Est-ce qu'il a des prérogatives qui lui permettent justement d'intervenir sur ces questions d'asile ? Ou bien est-ce que les parlementaires sont avant tout des spectateurs ? Alors, qui débattent d'ailleurs en ce moment, c'est son plénière à Strasbourg, mais qui ne peuvent faire autre chose que de débattre ?
Alors, non, le Parlement européen n'est plus juste un spectateur, il l'a longtemps été, mais... dans ce rôle-là, il a quand même une utilité aussi. Il est le représentant censément démocratique de l'Europe, et puis il est aussi celui qui a été capable de prendre l'institution qui a été la plus capable de prendre des positions symboliques. Et donc des positions qui étaient des positions de rappel aux valeurs européennes. Et dans ce rôle-là, je pense que le Parlement européen est très attendu et c'est sans doute celui sur lequel on peut encore miser le plus. Parce que c'est le plus capable d'incarner les valeurs humanistes qui sont vraiment en panne aujourd'hui en Europe. Cette crise des migrants et cet épisode de l'Aquarius, ça fait vraiment lien à la crise de sens de ce qu'est l'Europe aujourd'hui. Elle n'arrive plus à incarner des valeurs qui permettraient de rassembler.
Mais est-ce qu'on n'en reste pas simplement, est-ce qu'on n'en reste pas seulement, Emmanuel Rongoat, au niveau du symbolique, mais que le poids politique, le pouvoir politique en la matière, il est quand même détenu d'abord par les États sur ces questions?
Oui, oui, tout à fait. Le Parlement européen, ça reste, s'il n'est plus juste une institution symbolique, ça reste l'institution qui est clairement la plus faible et à la traîne au niveau du pouvoir et aussi au niveau de la visibilité. Et c'est pas rien, c'est pas le Parlement européen qu'on regarde quand il y a dans l'espace public et dans l'espace médiatique, quand il y a des problèmes.
Mathieu Petithomme,
cette question.
Pardonnez-moi, je passe la parole à Mathieu Petithomme. On revient très vite vers vous. Hein.
Sur cette question de la crise migratoire, en fait, ce qui est intéressant de voir, c'est que elle joue surtout un rôle dans les pays où l'enjeu des migrations était déjà un enjeu, si je puis dire. Donc, on voit un clivage très fort, par exemple, en Allemagne, où l'AfD est rentrée au Parlement. Donc, cette question joue un rôle très fort. En Autriche aussi, où l'extrême droite est rentrée et au pouvoir aujourd'hui, gouverne avec les conservateurs. Et on se souvient qu'en 2015, c'est ces deux pays qui étaient vraiment au devant de cette crise migratoire. Et puis dans d'autres pays, surtout en Europe de l'Est, par exemple en Hongrie, en Bulgarie aussi, où l'extrême droite gouverne aussi avec les conservateurs. Et on a d'autres pays où, en fait, cette question pose très peu de débats politiques, surtout, par exemple, en Espagne, au Portugal. Donc il y a un vrai clivage entre certains pays européens et d'autres. Mais ce qu'on peut dire, c'est que ce sera une question, mais une question parmi d'autres, bien sûr, dans les débats.
Vous êtes d'accord, ce sera une question, mais seulement une question parmi d'autres dans les débats de la prochaine campagne des élections européennes, Clémentine Forissier. C'est toujours difficile de savoir à l'avance, mais enfin, on voit à quel point aujourd'hui ça occupe l'agenda. Ça sera d'ailleurs à l'agenda, normalement, du prochain sommet. Je ne sais pas ce qu'il en sortira, mais...
Ce sera à l'agenda du prochain sommet, cette question justement de la solidarité. Il est très peu probable qu'on arrive à un accord sur en fait, c'est la réforme de ce qu'on appelle le régime de Dublin aussi. C'est-à-dire, quand un migrant arrive quelque part, c'est le pays où il arrive qui doit se charger de son accueil et ensuite... Donc ça, on n'arrivera pas à un accord là-dessus en juin. Et ça risque d'être un des gros enjeux des élections européennes à venir. Et si je prends juste l'exemple de la France, alors évidemment, le Front National est à fond, enfin, le Rassemblement National est à fond sur ce sujet. Mais pas que, si vous regardez la tribune qui a été publiée très récemment par les Républicains, Laurent Wauquiez, Bruno Retailleau, Christian Jacob et j'oublie le dernier signataire, ça faisait partie des sujets qui étaient mis en avant. L'Europe, il parlait même de l'Europe passoire, ou quasiment. Enfin, je veux dire, donc là, on est sur des thématiques qui se rapprochent très fortement de celles de l'extrême droite. Et clairement, ça fait partie des angoisses qui, à mon avis, légitimement ou pas, d'ailleurs, je ne suis pas là pour en juger, mais en tout cas, vont être mises sur le devant de la scène. Tout l'enjeu sera de faire en sorte que peut-être le débat ne se focalise pas uniquement là-dessus. Voilà.
Et peut-être pas uniquement sur des questions nationales, parce que si donc cette question risque d'être très présente dans la campagne, on fait quand même le constat que le poids du Parlement européen sur ces sujets est avant tout d'ordre symbolique. Hein, ce sont les États qui sont à la manœuvre. Mathieu Petithomme, est-ce que ça ne veut pas dire que... une partie en tout cas du débat des prochaines élections européennes sera, comme ça l'est souvent finalement, une série de débats à l'échelle nationale. C'est-à-dire que si on parle d'immigration, on en parlera à l'échelle nationale, mais il n'y aura pas forcément un débat, disons, transnational pour essayer d'imaginer de manière collective ce que serait une bonne politique de l'asile, par exemple.
Bien sûr, alors c'est ce que je voulais dire un petit peu... Au départ, c'est que, évidemment, on n'a pas une boule de cristal et tout dépendra du type de campagne qui sera menée. Mais ce que l'on peut dire déjà, c'est ce que l'on sait par rapport à toutes les élections européennes qui ont eu lieu depuis 1979. Et on sait, en fait, plusieurs tendances. La première, c'est, comme vous l'avez dit, une abstention, en fait, très forte. Hein, une tendance qui existe depuis les années 80. Alors, pour avoir une idée, en 1979, la participation, c'était 62% et ça a diminué jusqu'à 42% aujourd'hui en 2014. Donc, on a des élections européennes où, en fait, le pourcentage d'abstentionnistes est beaucoup plus fort que celui aujourd'hui des gens qui votent. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, on a une tendance à ce que ça soit des élections intermédiaires. Et donc, il y a une tendance à ce qu'il y ait un vote sanction qui s'exprime très souvent. Et on vote aussi des fois pour des partis pour lesquels on ne voterait pas forcément dans d'autres élections. Autrement dit, on l'a vu par exemple en 2009, les Verts ont fait un très bon score. En 2014, c'était le Front National. Donc, il y a une tendance à favoriser des partis que l'on ne favorise pas forcément dans d'autres élections. Et puis, troisièmement, c'est la tendance à la nationalisation, qui est toujours vraie aujourd'hui. Et depuis les années 80, il y a déjà une théorie en sciences politiques qui dit que les élections européennes seraient des élections de second ordre, pour toutes ces raisons, abstention, et qui se jouent surtout sur les questions nationales. Alors, juste pour terminer sur ça, malgré tout, on observe, notamment depuis le traité constitutionnel européen de 2005, que même si les enjeux nationaux dominent souvent, c'est-à-dire on a plutôt une juxtaposition de 27 élections nationales qu'une véritable élection européenne qui n'a pas encore vraiment lieu. Mais malgré tout, les enjeux européens deviennent de plus en plus forts. C'est pourquoi les deux sont à prendre en compte. Et si je peux me permettre pour conclure, en fait, ce qu'on verra, c'est que tout dépend du type de parti considéré. Certains partis mettront beaucoup plus en avant le clivage européen, à mon sens, par exemple Emmanuel Macron, puisqu'il va essayer d'attirer tous les pro-européens. Et d'autres, comme par exemple le Front National, pour qui la position est clairement anti-européenne. Par contre, on peut imaginer que d'autres partis qui ne sont ni sur l'un de ces deux pôles, ni le pôle pro, ni le pôle anti-européen, mettent plus en avant d'autres enjeux, comme les enjeux nationaux, sociaux ou autres.
Emmanuel Rengouat.
Oui, c'est une question qui est très intéressante, la question de la capacité d'unifier les débats européens au moment de l'élection européenne. Et effectivement, je rejoins tout à fait Mathieu, on est encore sur 27-28 élections nationales. Ceci dit, on peut juste revenir quelques instants sur pourquoi est-ce qu'on en est là. C'est aussi parce qu'il n'y a pas d'espace ou peu d'espace public européen. Ça veut dire, qu'est-ce que c'est la différence avec les espaces nationaux, avec ce qui fait que dans les élections nationales, tout le monde sait qu'il y a une élection présidentielle et tout le monde, en tout cas, il y a plus de gens qui se sentent concernés. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas ça à l'échelle européenne? Parce qu'il n'y a pas de médias proprement européens et les médias en parlent peu. Donc je salue France Culture de travailler sur la question.
Et contexte, les acteurs avec Clémentine Morin-Forissier qui est à mes côtés.
Tout à fait. Les acteurs sociaux, les mouvements sociaux, les syndicats sont peu européanisés. Ils portent peu leur activité à l'échelle européenne. Et ça aussi, c'est des acteurs qui permettent de faire passer un débat à une échelle transnationale ou supranationale. Et puis les derniers acteurs, c'est ceux qui vous intéressent aujourd'hui, et ce sont les partis politiques. Et les partis politiques se sont européanisés très tardivement. Et puis, on peut insister sur un point qui est que l'Union européenne a longtemps fait peu de place aux partis politiques. Vous insistiez sur le faible poids du Parlement européen. Ce n'est pas un hasard. C'est qu'il y avait, une réticence très forte qui était idéologique aux racines de l'Union européenne, de la construction européenne, à faire participer les partis, à leur laisser une place. Il n'y a pas eu, ou très tardivement, eu des modes de financement qui ont été mis en place. Donc les partis se sont organisés tardivement et ils y ont peu d'espace. Donc effectivement, ils s'investissent moins aussi à l'échelle européenne qu'à l'échelle nationale, ce qui explique en partie le désinvestissement des élections et l'abstention importante.
Il y avait pourtant un projet qui a été imaginé, qui date déjà d'il y a quelques années, mais qui était celui d'établir des listes transnationales pour justement peut-être favoriser ce débat à l'échelle européenne. Projet soutenu pas par n'importe qui, hein, Jean-Claude Juncker, président de la Commission, ce que j'ai pu voir dans la documentation, Emmanuel Macron. Alors, le projet, si j'ai bien là aussi saisi, mais vous allez me dire si je me trompe ou pas, Clémentine Forissier, c'était déjà de profiter, disons, du départ des 27 eurodéputés britanniques pour que ces 27 postes-là soient justement sur des listes transnationales où chaque formation alors européenne aurait présenté 27 noms avec un représentant de chacun des pays européens. Pourquoi ça n'est pas allé plus loin, puisque manifestement, ces listes transnationales n'existeront pas l'an prochain?
Parce qu'il y avait une série de pays qui étaient contre. C'est malheureusement souvent ça la raison pour laquelle les projets n'avancent pas au niveau européen.
Et pour quel motif?
Parce que ça, je pense que notamment dans les pays de l'Est de l'Europe, mais l'Allemagne n'était pas archi pour non plus, ça fait qu'il y a un contingent de... Enfin, il y a plein de raisons, mais il y a un des contingents de sièges qui finalement échappe un peu aux pays en question, en fait. C'est que le débat politique... prend une autre dimension en réalité, et je pense qu'on n'est pas tout à fait prêt aujourd'hui à ça aujourd'hui en Europe. Je pense qu'on peut résumer un peu les choses de cette façon,
finalement. Sachant que ça aurait quand même posé un vrai problème, c'est-à-dire dans la mesure où ça aurait été des postes attribués à la proportionnelle, c'est-à-dire que plus on est haut dans la liste, plus on a des chances d'être élu. Comment est-ce qu'on classe les représentants des 27 pays? Ça aurait pu donner lieu à des négociations sans fin, là, on imagine.
Oui,
quand même,
mais
hein.
enfin, c'est vrai, mais les négociations sans fin sur des sujets comme ça, je pense qu'on arrive à trouver des compromis. Je pense que si on est d'accord pour franchir ce genre de cap d'un point de vue politique, après la technique suit. Ça, c'est mon, c'est, ça se vérifie très souvent au niveau européen. Mais s'il n'y a pas une vraie volonté politique derrière, c'est sûr, on trouve toujours des raisons pour expliquer qu'il y en aurait qui auraient été favorisés, etc., etc.
Au-delà de l'idée de créer un débat à l'échelle européenne, Mathieu Petithomme, pour quelle raison est-ce qu'Emmanuel Macron pouvait trouver un intérêt dans ces listes transnationales? Est-ce que c'est justement parce qu'il y a peut-être un positionnement qui est celui de La République En Marche, qui finalement est un positionnement assez clair sur les questions européennes, et ça lui permettait aussi peut-être de récupérer, de rameuter un petit peu au-delà des seules frontières françaises?
Alors, je ne suis pas certain que lui-même pensait que ce projet pouvait aboutir. Par contre, ce qui est très clair, c'est que c'est une stratégie qui est tout à fait classique, historique. En fait, le courant le plus pro-européen historiquement depuis l'après-guerre, c'est le centrisme. Et donc, sur cette question, en fait, européenne, Emmanuel Macron récupère simplement la position qui a été celle, traditionnellement, de l'UDF, des centristes en France, c'est-à-dire un positionnement pro-européen très affirmé. Que ni les socialistes à gauche ou centre-gauche, ni la droite classique n'a jamais mis en avant. Donc en fait, il essaye de faire l'OPA sur tout le camp pro-européen, si je peux dire, en s'appuyant sur deux données. La première, c'est qu'en fait, une partie importante de l'opinion publique française, 60%, considère quand même que la France fait bien d'appartenir à l'Union européenne. Donc il y a un pro-européanisme quand même assez fort. Pour autant, si on regarde sur des politiques sectorielles, par exemple sur l'euro, etc., là, on a des critiques beaucoup plus fortes. Il y a quand même 35% des Français qui disent vouloir sortir, par exemple, de l'euro. Bon, et donc lui, en fait, son idée, c'est de dire, voilà, moi, je vais faire l'OPA sur cette question pro-européenne. Et donc, défendre cette idée d'une liste transnationale, c'est dire, vous voyez, je suis un précurseur, je vais au-delà des partis classiques, traditionnels, etc. Et donc, c'est assez bien joué, en fait, politiquement. Même si, en pratique, eh bien, il n'a aucune stratégie d'alliance pour le mettre en place. Il n'a pas de soutien, comme ça a été dit, avec d'autres partis en Europe. Et donc, ça ne peut pas se mettre en place. Mais là, ce n'est pas réellement de sa responsabilité, comme on l'a dit, c'est tout simplement aussi le fait que les partis politiques classiques, en fait, refusent de mettre en place ce type parce que ça voudrait créer des europartis, en fait, où les partis nationaux perdraient la main. Il faudrait européaniser les programmes, européaniser les campagnes. Et il y a d'autres partis, par exemple, on le voit, la France Insoumise, ils essayent de faire une alliance avec Podemos, le Bloco de Esquerda, au Portugal. Et donc, on voit aussi ce type d'alliance qui est assez nouvelle et assez intéressante.
Voilà, est-ce que c'est justement la question que j'allais poser à Emmanuel Renouat, est-ce qu'on n'assiste pas quand même aujourd'hui à une volonté des partis politiques? Alors on observe évidemment beaucoup ce qui se passe en France, mais même plus largement dans les autres pays européens, à cette idée que sans alliance, on ne peut pas peser évidemment au Parlement européen, et qu'il faut forcément essayer peut-être de renforcer un certain nombre de connexions qui n'existaient peut-être pas auparavant, en tout cas qui existaient dans un cadre très, très classique, qui est celui qu'on a longtemps connu, notamment en France, la division entre la droite et la gauche.
Oui, alors en fonction des partis, on a des stratégies d'alliance à l'échelle européenne qui sont quand même très très différentes. Classiquement, les socialistes et les centristes, les libéraux ont des alliances beaucoup plus anciennes. Les Verts ont aussi une vraie stratégie d'alliance à l'échelle européenne. Pour les autres partis, c'est souvent plus récent et c'est aussi, je pense notamment à l'extrême droite et au FN, une stratégie qui est clairement une stratégie d'affichage. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas développée, hein. Ça fait maintenant plusieurs... depuis l'arrivée de Marine Le Pen notamment, mais déjà dans les années 90, on avait une mise en avant des alliances à l'échelle européenne. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, dans l'espace politique national, et pas que au moment des élections européennes, c'est devenu une ressource politique que d'être capable de montrer ces alliances à l'échelle européenne. Donc ça montre quand même que l'élection européenne et la construction européenne a des effets sur la vie politique nationale. Donc il faut montrer qu'on est un leader d'envergure européenne. C'est ce que fait Marine Le Pen. Vous avez sans doute vu qu'elle a lancé sa campagne européenne, notamment à Nice, en invitant tous ses leaders et dans le Parlement européen.
Et d'ailleurs, de ce point de vue, Emmanuel Renouat, est-ce qu'on peut imaginer que ce sera moins compliqué cette fois-ci pour le Rassemblement national? Je rappelle, c'est le nouveau nom du FN, de constituer un groupe au Parlement européen. Il y a 4 ans, ça avait été quand même assez long. Il y avait un certain nombre de formations politiques qui ne voulaient pas s'afficher aux côtés justement du Front National. Est-ce qu'avec la conjoncture, disons, politique dans un certain nombre de pays, on peut se dire que le groupe auquel appartient le Front National, à savoir l'Europe des Nations et des Libertés, n'aura pas trop de soucis à se faire pour exister?
Alors, ça reste toujours un peu une inconnue, parce que ce qu'on appelle les eurosceptiques, mais on pourrait dire les opposants de droite, souverainistes ou plus ou moins identitaires à l'Europe, n'ont jamais réussi à faire un groupe uni au Parlement européen. Le FN y travaille depuis le début des années 90, notamment parce que pour lui, c'est des ressources matérielles, le fait d'avoir un groupe au Parlement européen. C'est une ressource en termes de postes. Voilà, tous les leaders du Front National ont été élus européens, ça leur permet de faire de la politique, en fait, tout simplement, plutôt nationale. Donc ils y travaillent, mais c'est très difficile. Les souverainistes sont très... Les eurosceptiques de droite, on va dire, sont très divisés, notamment parce qu'en général, ils ont quand même un projet européen qui est quasi inexistant, ou qui est vraiment très, très, très faible. Donc c'est plutôt des alliances de raison. Ceci dit, effectivement, il y a un vrai travail d'affichage et de mise en réseau. Marine Le Pen a vraiment travaillé à ça sur la dernière décennie, ce qui lui a aussi permis, entre parenthèses, de s'imposer, de prendre le contrôle de l'appareil. Alors, c'est plus FN, Rassemblement National à l'échelle interne. C'est une manière aussi juste d'insister sur un point qui est que les stratégies que mettent en place les partis à l'échelle du Parlement européen, c'est souvent des stratégies, on pourrait dire, à double détente, qui visent aussi à donner une image à l'échelle nationale. Et c'est quand même, même si on a des volontés de changer l'Europe ou de travailler sur les questions européennes au Parlement européen, dans les élections européennes restent des élections secondaires. Hein. Mathieu a parlé tout à l'heure d'élections de second ordre. Ça reste des élections où on a quand même une volonté de se replacer, de se repositionner à l'échelle nationale centralement.
Clémentine Forissier.
Je pense quand même que c'est moins... on voit une évolution. C'est moins que ça. Enfin, voilà, ils ont fini par réussir à agréger quand même un certain nombre de forces. Et puis, les élections en Europe, dans les différents pays, montrent quand même que, par exemple, je crois que Matteo Salvini était invité, le chef de la Ligue était invité à Nice, justement, à ce rassemblement dont on parlait. Il n'a pas pu y aller parce qu'il y avait des élections dans son pays à ce moment-là, des discussions. Mais je veux dire, il y a quand même dans un certain nombre de pays d'Europe des partis qui prennent d'extrême droite, populistes, enfin, je pense qu'il faut parfois distinguer quand même, qui prennent de l'ampleur. On voit en Allemagne l'AfD qui a quand même 90 parlementaires au Bundestag. Donc, je pense quand même que le risque de voir, enfin le risque, la possibilité de voir des anti-européens au Parlement européen prendre encore plus de place qu'ils n'en prenaient dans cette mandature là l'année prochaine est forte. Il faut absolument pas la négliger. Et donc je pense que c'est quand même plus simple que ça ne l'était pour eux de s'agréger, même si en fait effectivement c'est pas forcément ce qui les lie, n'est pas forcément, je dirais, un programme défini, mais c'est pas forcément le cas non plus. Si vous regardez le PPE qui rassemble la droite, disons un peu plus classique, même si on peut quand même dire que Viktor Orban, qui est le chef du gouvernement hongrois, en fait partie, on peut pas forcément dire qu'il ait beaucoup de choses en commun avec les jupéistes de LR. Enfin voilà, mais en tout cas, il y a, je pense, quand même une forte probabilité de voir ces partis-là s'agréger beaucoup plus facilement après 2019 que ça ne l'a été en 2014.
D'autant, Clémentine Forissier, qu'ils ont quand même un sacré atout dans leur poche, c'est le Brexit. C'est-à-dire le Brexit a démontré que sortir de l'Europe, ça n'était pas une pure lubie, comme ça a pu être présenté jusqu'à ce que ça advienne, mais que c'est quelque chose donc qui peut se passer. Est-ce que ça n'a pas eu aussi pour effet de légitimer encore peut-être davantage le camp de ceux qu'on appelle les eurosceptiques? C'est toujours un petit peu réducteur d'essayer de regrouper sous un seul terme, comme ça, des formations très, très différentes, mais il y a quand même cet effet-là, non?
Alors, je suis pas tout à fait d'accord avec vous sur ce point, parce que je suis pas certaine que le Brexit montre que ce soit simple et possible de sortir de l'Union européenne.
Simple, sans doute pas. On le voit.
C'est un peu comme le
moment.
Nucléaire en France, en fait. C'est-à-dire, il y a une époque où on a décidé de faire un programme là-dessus. Aujourd'hui, en sortir, c'est quand même assez compliqué. Et à tort ou à raison, je suis pas là pour le juger pour l'Europe, mais en tout cas, le Royaume-Uni là est dans une situation extrêmement compliqué, et on voit que pour le moment, notamment sur la question de la frontière irlandaise, de l'appartenance au marché unique, etc., ils n'ont pas de solution. Objectivement, c'est très, si on applique les règles, ils n'ont pas de solution. C'est très très compliqué. Donc je ne suis pas sûre que ce soit vraiment ça qui montre. Au contraire, je dirais, à la limite, ça a plutôt tendance à coaliser un peu plus les Européens entre eux. Ça a plutôt eu tendance à les rapprocher qu'à les éloigner, le Brexit, je pense.
Mathieu Pelletot.
Alors, sur cette question, en fait, il y a évidemment l'enjeu de la sortie de la Grande-Bretagne, de ce qui va se passer, des accords douaniers et autres, mais l'enjeu majeur du Brexit, du point de vue du Parlement européen, n'est pas tant celui-là. Il est surtout comment vont se répartir les 72 sièges de la Grande-Bretagne Et la perte que ça représente, en fait, est la redistribution de ces sièges. Parce qu'il faut bien voir que les sièges sont répartis très inégalement en fonction des pays considérés. On a l'Allemagne, c'est 98 sièges, la France, 74, la Grande-Bretagne, c'était 72, l'Italie, 73, ensuite l'Espagne, 54, le Portugal, 51, puis ensuite on passe à la Roumanie, 32, etc. Donc si vous voulez, au Parlement européen, les principaux contingents, ce sont l'Allemagne, la France, c'était la Grande-Bretagne, et c'est l'Italie, l'Espagne et la Pologne. Donc en fait, ça dépend aussi beaucoup de ce qui se passe dans ces pays. Alors, si je résume un petit peu, l'idée, c'est quoi? C'est que le scénario, depuis 1989 jusqu'à 1999, on a eu une majorité à gauche au Parlement européen. Et depuis 1999, aujourd'hui, ça fait 20 ans, la majorité est plutôt à droite. Même si, en pratique, au niveau du Parlement européen, on a un gouvernement qui est assez complexe, où la gauche et la droite votent très souvent ensemble. Les socialistes votent très souvent avec le groupe du Parti populaire ou les libéraux. Donc c'est plus complexe dans l'espace national. Mais l'enjeu, en fait, aujourd'hui, ça, c'est très simple, c'est ne va-t-on pas assister à un affaiblissement de la droite, du Parti populaire européen? Et au contraire, comme on l'a dit, un renforcement de l'extrême droite, par exemple, donc une redistribution à droite entre ces deux pôles, si on peut dire. Alors pourquoi on peut dire ça? Parce que les conservateurs, qui apportaient quand même pas mal d'eurodéputés, les conservateurs britanniques, ne seront plus là. En Allemagne, on a Angela Merkel, donc qui amène quand même des conservateurs, mais plus tant qu'avant, il y a l'extrême droite. En France, même chose, l'UMP est un petit peu en crise. En Espagne aussi, donc voilà, ils sont quand même dans une situation complexe. Et à l'inverse, à gauche, par exemple, du point de vue des socialistes, c'est la même chose. Le SPD en Allemagne est vraiment en crise. Le Labour britannique, puisque les Anglais sortent, n'aura plus ses eurodéputés. En France, les socialistes français sont aussi dans une très grande difficulté. Donc, à gauche, ce n'est pas le même enjeu, mais ça sera un enjeu. Ne va-t-on pas assister à un rééquilibrage avec le groupe de la gauche alternative qui aura plus d'eurodéputés? Aujourd'hui, c'est 51. Et les socialistes, peut-être un peu moins, 187. Et donc, pour finir, la question, c'est ne va-t-on pas assister à une difficulté à avoir des majorités au Parlement européen avec une coalition du type geringonça, comme on dit au Portugal, brinque-ballante? Parce que jusqu'à aujourd'hui, la gauche et la droite, les socialistes et la droite classique devaient déjà s'allier pour gouverner. Si demain, leurs groupes sont plus faibles, que l'extrême droite est plus forte ou autre, comment va-t-on former une majorité? Et c'est ça, je pense, la vraie question qui est posée.
Mais est-ce qu'on ne va pas se retrouver finalement avec un paysage au Parlement européen, Emmanuel Rengouat, qu'on pourra résumer de manière finalement assez simple, c'est-à-dire d'un côté ceux qui sont les pro-européens et de l'autre ceux qui sont dans le camp des eurosceptiques? Et je retente quand même mon hypothèse à propos des effets du Brexit qui n'a pas eu beaucoup de succès ni avec Clémentine Forissier ni avec Mathieu Petithomme. Je la retente avec vous, Emmanuel Rengouat, c'est-à-dire est-ce qu'on ne peut pas aussi y voir un effet du Brexit qui va aussi consister à européaniser le débat et à faire presque de ces élections une forme de référendum pour ou contre l'Europe?
Alors, je ne vais pas être d'un grand soutien à votre hypothèse. Parce que
c'est pas grave, j'ai l'habitude.
Je pense que c'est peut-être en partie vrai, mais je pense que la légitimation de la critique de l'Europe, elle est antérieure au Brexit, en fait. En France, très clairement, elle se développe après 2005, après le référendum 2005, et encore plus fortement en France et en Europe, après la crise de 2008. Et ça se voit dans la propagande des partis au début des années 2000, les partis de gauche radicale, on va dire, et de droite radicale, demandent à changer l'Europe, demandent une autre Europe. Et à partir de la fin des années 2000, c'est tous les partis qui font cette proposition, et on le voit aujourd'hui. Que, à part chez Emmanuel Macron et La République En Marche, effectivement, on a vu que chez les Républicains, on va vers une radicalisation de la critique. Donc, on voit bien qu'à l'échelle européenne, effectivement, et c'est assez logique dans le contexte, il y a une légitimation de la critique qui s'est faite.
Donc, le fait de critiquer l'Europe ne suffit pas à déterminer les grands clivages dans le futur paysage politique européen?
Alors, effectivement, le remplacement du clivage gauche-droite par un clivage pro-anti-Union européenne, c'est un peu le rêve des anti-européens. Hein. C'est un peu la doctrine qu'ils mettent en avant, la vision de l'espace politique qu'ils mettent en avant depuis la fin des années 90. Moi, je pense qu'on n'en est pas là, parce qu'encore une fois, l'enjeu européen, même si c'est vraiment infiltré, fortement intégré dans le code génétique des luttes partisanes nationales, il reste secondaire. Mais ce que ça pose comme question, à mon avis, c'est l'élection qui va arriver, et puis cette légitimation de la critique et cette capacité à faire des alliances, des coalitions au sein du Parlement, c'est la capacité de proposer des projets alternatifs pour l'Europe. Et plus précisément, c'est la capacité de la gauche, ou plutôt des gauches, notamment de la gauche social-démocrate, et puis des gauches d'alternatives, le PGE au Parlement européen, leur capacité, eux, à avoir un discours un peu solide, cohérent, sur l'Europe et qui est force de proposition. C'est-à-dire que la question que ça pose, c'est est-ce qu'on peut créer une opposition au sein de l'Union européenne si on ne peut pas créer d'alternance, ou s'il faut s'opposer à l'Union européenne ?
Clémentine Forissier.
Ce qui va être intéressant, c'est de voir effectivement comment cette gauche va réussir à se positionner. Parce qu'on voit bien que la droite, et je parle notamment en France, va avoir un problème avec l'Europe. C'est-à-dire que LR, ils sont un peu bloqués entre d'un côté l'extrême droite et une partie de leur électorat qui est très identitaire et qui serait tenté par les discours de Marine Le Pen sur ce sujet. Et de l'autre, un centre qui est en fait complètement préempté par Emmanuel Macron, qui lui a effectivement brandi l'Europe comme un argument de campagne depuis le début et qui a ce même discours de dire, en gros, ces élections, et d'ailleurs le deuxième tour de l'élection présidentielle, c'était un peu ça, c'était, il y aura les pro-européens et les anti-européens. Le deuxième tour de l'élection présidentielle, d'ailleurs c'est intéressant si vous regardez un peu les sondages de pourquoi les gens ont voté plutôt, enfin, ou ce que pensent les électeurs des uns et des autres. Les électeurs de Marine Le Pen, ils sont contre le monde ouvert, et les électeurs d'Emmanuel Macron, ils sont plutôt très favorables à ce monde ouvert. Et le monde ouvert, l'un des instruments de ce monde ouvert pour la France, c'est l'Europe. Le premier instrument, c'est celui-là. Après, on peut aller au-delà, mais c'est le premier instrument.
C'est ce qui me fait dire que le rejet ou l'adhésion à l'Europe, c'est pas forcément quelque chose qui va être promu par le camp des eurosceptiques. Emmanuel Macron, par exemple, La République En Marche, ils auront aussi intérêt à jouer de ce clivage-là.
Alors, on verra comment ils font, mais pour moi, c'est déjà quelque chose qui est sur la table et qui est un argument pour eux. Et d'ailleurs, aujourd'hui, l'opposition en France à l'Assemblée nationale, par exemple, elle est complètement éclatée. Elle a du coup du mal à se faire vraiment entendre. La seule vraie opposition qui existe en France aujourd'hui, je dirais que c'est plutôt l'extrême gauche, c'est plutôt les Jean-Luc Mélenchon et les gens qui l'entourent. Mais concrètement, d'un point de vue, quand il fait passer, réussit à faire passer comme texte, etc., ou comment ont-ils vraiment pesé sur ce qui se passe, c'est pas très concret, c'est plutôt politique, c'est pas très concret. Et aujourd'hui, voilà, le clivage, il est vraiment La République En Marche contre les autres, et les autres, c'est donc l'extrême gauche qui est plutôt quand même assez sceptique sur l'Europe, et l'extrême droite qui est carrément anti-européenne.
Emmanuel Rengouat.
Oui, je suis toujours assez prudente ou assez gênée en fait par ce clivage-là. Je comprends très bien évidemment pourquoi on dit pro ou anti-européen, mais quand on fait ça, on a toujours tendance à assimiler les anti-européens ou les eurosceptiques, c'est pas évident de les nommer non plus, dans une même position. Or, on a des positions très très différentes, des discours de critique de l'Europe, ils sont très très différents à droite et à gauche, entre le souverainisme, l'idée que le pouvoir, il doit être à l'échelle nationale pour que un État-nation fonctionne, mais aussi il se fait sur des bases nationalistes ou sur des bases internationalistes. On n'a pas du tout le même rapport à la critique de l'Europe entre la gauche et la droite, et c'est la question de savoir si ce qu'on veut, c'est un retour à l'État-nation, ou si ce qu'on veut, c'est une Europe de gauche, ou c'est un projet de transformation sociale à l'échelle européenne ou à l'échelle nationale.
On voit bien l'intérêt justement que peuvent avoir, alors appelons-les les pro-européens, notamment la République En Marche, à mélanger justement toutes ces différentes composantes, soit des eurosceptiques, soit des anti-européens, pour essayer d'amener des clivages qui sont faciles aussi à lire d'un point de vue et politique et médiatique. Mathieu Petithomme, est-ce qu'on peut dire que pour un certain nombre de formations politiques, en particulier françaises, ces élections européennes, c'est peut-être d'abord un mauvais moment à passer, parce que les contradictions internes, parce que l'histoire font que c'est compliqué justement de se positionner de manière un petit peu claire sur ce que peut être le projet européen.
Alors, comme j'ai essayé de le dire au début de l'émission, en fait, c'est plus un mauvais moment à passer pour certaines formations politiques que pour d'autres. Ce que l'on observe en général, les élections européennes, c'est des plus petits partis ou des partis pour lesquels les citoyens votent pas tant que ça ou moins lors d'autres échéances électorales comme les présidentielles ou les législatives, ont tendance à mieux réussir dans ce type d'élection. Par contre, les partis classiques ou dominants, en général, réussissent un peu moins bien. Et il y a toujours cette tendance à la sanction aussi du gouvernement. Et donc, c'est une élection qui, en général, pour l'opposition, est assez bien. Le problème, c'est qu'aujourd'hui...
Il y a un mode de scrutin
avec la proportionnelle. Il y a aussi une nationalisation du scrutin maintenant. Mais ce que l'on peut dire aujourd'hui, c'est déjà, pour suivre un petit peu ce qu'a dit Emmanuel Emmanuel Rengouat, c'est que le camp de l'euroscepticisme, en fait, il n'existe pas. Parce que, comme elle l'a dit, le Front National veut clairement sortir de l'Europe, sortir de l'euro jusqu'à il y a peu. Bon, mais ce que l'on dit à gauche, c'est tout à fait différent. Et de fait, c'est d'ailleurs le principal problème de la gauche classique, mais aussi de la gauche alternative. C'est-à-dire d'avoir à la fois une critique de l'Europe réellement existante, tout en proposant autre chose. Donc, les partis politiques qui ont le plus intérêt à mettre en avant ce clivage pro-anti-européen, si je simplifie, c'est La République En Marche, qui occupe l'un des pôles, le pôle pro-européen, ou le Front National, qui occupe l'autre pôle. Par contre, tous les autres partis qui ont une position en fait intermédiaire, eh bien, ils ont du mal, en fait, parce que leur campagne va être plus compliquée, avec des arguments plus complexes. Et donc, c'est pourquoi on peut imaginer qu'eux, ils vont plutôt mettre en avant les enjeux nationaux. Et, par exemple, pour un parti comme la France Insoumise ou les Gauches Alternatives, ça va être très clair. Ils vont faire très certainement une campagne sur le bilan de Macron, le président des riches, et puis un peu critique de l'Europe libérale réellement existante. Ce qui peut aussi très bien marcher. Pourquoi ? Parce que si, par exemple, ces gauches alternatives sont celles qui vont le plus nationaliser le débat, en sachant que les élections européennes sont très souvent des élections nationalisées, ça peut fonctionner. Mais on voit bien que, par exemple, d'autres partis dont on a peu parlé, le Parti Socialiste ou l'UMP, peuvent avoir de très grandes difficultés parce que ni sur l'enjeu européen, il n'occupe aucun des deux pôles, ni complètement pro ni anti-européen, ni sur l'enjeu national, il n'incarne aujourd'hui l'opposition la plus franche et claire à Emmanuel Macron. Et c'est pourquoi, en général, on voit que ces grands partis classiques, eh bien, ont plus de mal dans les élections européennes.
Clémentine Forestier.
C'est juste un point qui est intéressant, je trouve, c'est que même au Rassemblement National, et on l'a vu avec le départ de Florian Philippot, même chez eux, il y a des clivages. Je ne suis pas tout à fait d'accord pour dire qu'ils veulent sortir de l'Europe. Pour moi, ce n'est plus vraiment très clair. Je pense qu'ils ont justement fait un pas de côté. Et ils se sont un petit peu scindés, alors pas scindés, mais il y a, disons, quand même le numéro 2 du parti qui est parti sur la question européenne, parce qu'il était, lui, vraiment favorable à ce que le Rassemblement National prône la sortie de l'euro, etc. Donc, même chez eux, il y a une sorte de mini-clivage sur la question européenne.
Alors, il y a des indices qui vont être importants. Ce sera celui des têtes de liste, c'est-à-dire qui va incarner, justement, la campagne, les programmes des différentes formations politiques. Pour l'instant, ce n'est pas grand-chose, Clémentine Forestier. Il y a le Parti communiste, hein, c'est ça, qui a choisi Yann Brossat, qui est un des adjoints d'Anne Hidalgo, la maire de Paris, pour mener la liste. Alors, on verra bien si le PC maintient jusqu'au bout une liste pour les européennes, mais en tout cas de l'identité des têtes de liste.
Il y a beaucoup de noms qui circulent, mais c'est assez révélateur, c'est très compliqué. C'est très compliqué pour La République En Marche, qui ont besoin d'avoir quelqu'un qui tire vraiment la liste, qui soit un peu connu, et en même temps, ils ont un problème de personnel politique, eux. Clairement, ils manquent de personnalités qui sont capables de jouer ce type de rôle. Donc pour l'instant, il y a des noms qui ont circulé, mais il n'y a rien qui est du tout arrêté. À droite, chez LR, il y a aussi des noms qui circulent. Alors, on entend parler de Damien Abad, qui est député, ancien député européen. On entend parler de Jean Leonetti, qui est ancien ministre des Affaires européennes. On entend aussi parler de Virginie Calmels, mais qui, elle, représente plutôt, même si il y a eu un schisme avec un Juppé, elle représente plutôt les juppéistes. Et ça, ce serait pas possible, parce qu'il y a toute une base de l'électorat LR qui ne se reconnaît pas dans cette ligne-là sur l'Europe. Et en fait, c'est assez intéressant de voir que le choix ou la difficulté à trouver des têtes de liste, et au PS c'est pareil, il y a Pierre Moscovici qui est le commissaire européen qui a dit qu'il était disponible pour ça, Christian Eckert aussi, il y a une partie du PS qui ne veut pas de Pierre Moscovici parce que justement il représente toute cette Europe libérale dont une partie de la gauche ne veut pas, et donc c'est symptomatique de la difficulté à se positionner, en tout cas pour les deux partis, les anciens deux partis majoritaires sur cette question qu'est l'Europe.
Emmanuel Rengouat.
Oui, juste pour insister sur le fait que les élections européennes, il y a toujours aussi des enjeux nationaux, mais aussi intrapartisans en fait, qui se rejouent. L'élection européenne, comme c'est souvent une élection de mi-mandat, c'est le moment où se repose la question du contrôle de l'appareil et de la définition de la ligne politique. Et pour plusieurs partis, là, l'élection européenne, ce sera clairement ces questions-là qui sont posées, notamment à droite. Est-ce que la ligne Wauquiez va être légitimée ou pas? Chez Génération, chez les Verts aussi, ce sont ces questions-là. Donc la question des têtes de liste, ça recoupe aussi évidemment ces questions-là. On peut juste dire un mot peut-être très rapidement aussi sur le fait que ce sera une élection européenne réformée qu'on va avoir cette année. où on revient à un mode d'élection qui est le même que celui des années 90, qui a été, c'est-à-dire qu'on passe de 8 grandes régions à une circonscription nationale. C'est une réforme qui a été menée par le gouvernement Macron. Qu'est-ce que c'est l'objectif ? C'est de servir les partis qui, effectivement, ont peu de têtes de liste secondaires, etc. Donc c'est aussi se créer un cadre favorable pour remporter un succès plus facile derrière une tête de liste connue, ou en tout cas derrière une tête de liste associée au président. Ça servira pas que La République En Marche, ça servira aussi probablement le FN et la France Insoumise. Mais c'est intéressant de voir qu'on peut se créer un contexte favorable aussi.
Eh bien, merci à vous trois d'avoir participé à cette discussion. Ça aura été un petit peu notre top départ pour cette année électorale. On aura évidemment l'occasion de revenir sur tout un tas de thèmes liés à ces élections européennes. Merci Clémentine Forissier, Emmanuel Rungwat et Mathieu Petithomme. Merci à nos camarades de France Bleu Héros qui a assuré la liaison depuis Montpellier. Et merci à l'équipe du Grand, Leïla Saïdi, Virginie Leduo, Philippine Lebray, Frune Saez et Antoine Mulster. Émission réalisée par Jenab Sangaré, avec à la prise de son Bruno Gagnère Fontanille. On va chanter ce soir chez Arnaud Laporte dans La Dispute.
Oui, vous restez ?
Non.
Non. Vous dites on va chanter.
Oui, on va chanter. Ah bah je peux si vous voulez. Allez.
Je crois que c'est arrêté de pleuvoir.
Ça dure jusqu'à quelle heure votre émission ? 20h, c'est ça ?
C'est bien, vous êtes informé sur la grille de France Culture. On va parler de musique, oui. Et demain, dans du grain à moudre, de quoi on va parler, Hervé Gardette ?
Que reste-t-il du logiciel libre ? Ah oui, pas grand-chose. Vous verrez.
Oh ! Bon, on écoutera demain, comme chaque soir. 19h, vous écoutez France Culture. C'est l'heure de retrouver Aurélie Kiffer pour les titres du journal.